7h sur Radio Orient. Bonsoir à tous. Votre rendez-vous d'information, Loïc Barrière et François-Xavier de Calonne. Au sommaire de ce point d'actualité, nouveau drame de l'immigration clandestine. 40 personnes sont mortes au large de la Tunisie. 30 ont pu être secourues. La Cour internationale de justice affirme qu'Israël n'a pas apporté la preuve que des employés de l'UNRWA étaient membres du Hamas. Elle rappelle aussi qu'Israël n'a pas le droit d'utiliser la famine comme arme de guerre. Enfin, en 2022, le jeune Aymen, âgé de 13 ans, avait été écrasé par un chauffard dans la périphérie de Montpellier après un match France-Maroc. Le procès du chauffard s'est ouvert devant la cour criminelle de l'Hérault. Ce drame au large de la Tunisie, 40 migrants originaires d'Afrique subsaharienne, dont des bébés, sont morts alors qu'ils tentaient de rejoindre clandestinement les côtes européennes. L'embarcation de fortune transportait 70 migrants. Elle a chaviré au large de Salakta. Selon les autorités tunisiennes, 30 personnes ont pu être secourues. L'armée française doit être prête à un choc dans 3 ou 4 ans face à la Russie qui peut être tentée de poursuivre la guerre sur notre continent. Déclaration aujourd'hui du chef d'état-major des armées françaises, le général Fabien Mandon, devant la commission de la défense à l'Assemblée. Selon lui, cette menace justifie l'effort de réarmement de la France. La Cour internationale de justice affirme qu'Israël doit faciliter les programmes d'aide de l'ONU à Gaza, dont ceux de l'UNRWA. La CIJ, basée à La Haye, précise qu'Israël n'a pas fourni la preuve qu'une partie du personnel de l'UNRWA était membre du Hamas. Ces accusations avaient conduit plusieurs pays à cesser le financement de cet organisme chargé d'apporter de l'aide humanitaire aux Palestiniens. Le président de la Cour, Yuji Iwazawa, rappelle aussi l'obligation d'Israël de ne pas utiliser la famine de la population civile comme méthode de guerre. En pleine visite du vice-président américain J.D. Vance en Israël, les députés israéliens ont décidé d'inscrire à l'agenda du Parlement l'examen de deux projets de loi visant à annexer la Cisjordanie occupée. Fin septembre, Donald Trump s'était dit opposé à toute annexion du territoire palestinien. Le premier sommet entre l'Union européenne et l'Égypte aujourd'hui. À l'ordre du jour, la situation à Gaza, la question de l'immigration, mais aussi l'économie. Après la nomination de Laurent Nunez au ministère de l'Intérieur, c'est Patrice Faure qui a été nommé préfet de police de Paris. Il était jusqu'ici directeur de cabinet d'Emmanuel Macron. Enfin, le musée du Louvre a rouvert ses portes aux visiteurs trois jours après un cambriolage dont le préjudice s'élève à 88 millions d'euros. En Conseil des ministres, Emmanuel Macron a exigé une accélération des mesures de sécurisation du musée le plus visité au monde. Merci d'avoir suivi ce rendez-vous d'information. Place à présent au dossier du jour. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Orient, nous écoutons le dossier du jour. C'est un drame qui avait suscité une très forte émotion il y a 3 ans, la mort d'un jeune adolescent en marge des célébrations de la demi-finale France-Maroc lors de la dernière Coupe du Monde de football. C'est aujourd'hui le début du procès du chauffard accusé d'avoir mortellement fauché Aymen, âgé de 13 ans. François-Xavier de Calonne.
Oui, la rencontre France-Maroc. Le 14 décembre 2022 a été endeuillé par ce drame près de Montpellier. Près de 3 ans après, le procès attendu par les familles et aussi par toute une ville s'est donc ouvert ce mercredi matin. Ce soir d'hiver, une centaine de supporters arborant le drapeau marocain étaient descendus dans les rues du quartier de la Mosson, en périphérie de Montpellier. C'était à l'issue de cette demi-finale, remportée 2-0 par la France. Au même moment, William, alors âgé de 20 ans, décide d'aller fêter la victoire de la France au volant de la Citroën C4 de sa mère, drapeau tricolore accroché à la portière. Il s'est retrouvé bloqué entre deux véhicules à un feu rouge près des supporters du Maroc. Le conducteur s'est fait chahuter par des jeunes gens et l'un d'entre eux a arraché le drapeau français de la portière, c'est ce qu'indiquent les enquêteurs. Le chauffard a alors démarré brusquement, il a fait un demi-tour sur les voies du tramway et il a alors percuté trois piétons, dont le jeune Aymen, grièvement blessé. L'adolescent est décédé peu après sa prise en charge.
Et circonstances aggravantes, François-Xavier, le chauffard a ensuite pris la fuite. Et
oui, recherché par toutes les polices, il a été interpellé 12 jours plus tard dans les Pyrénées-Orientales. Il s'était d'abord caché plusieurs jours en Espagne avec l'aide de sa famille maternelle. Devant les policiers, il s'était dit désolé, expliquant qu'il n'avait pas voulu percuter les personnes, qu'il n'avait pas pris conscience d'avoir blessé et encore moins d'avoir tué quelqu'un. L'accusé est jugé jusqu'à ce jeudi pour violence volontaire avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Violence volontaire avec arme n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours. Il encourt jusqu'à 20 ans de prison. Je voudrais m'excuser auprès de la famille, a-t-il dit depuis le box des accusés ce mercredi matin, juste après avoir décliné son identité. Des excuses qui, pour l'avocat de la famille de la victime, arrivent un peu tard.
Merci François-Xavier de Calonne. Coup de projecteur à présent sur le Maroc. Après le discours du roi qui avait mis l'accent sur l'importance de l'éducation et de la santé, le gouvernement marocain a annoncé dimanche une série de mesures. Il s'agit d'encourager les jeunes à s'engager en politique et à accompagner les réformes sociales, cela sur fond de contestation menée par la jeunesse depuis fin septembre. L'analyse de Mohamed Ezouak, journaliste fondateur de Yabiladi.
Le Conseil des ministres ce dimanche a d'une certaine manière entériné ces orientations royales et ces revendications de la rue, des rues marocaines, avec un projet de loi de finances qui est très orienté, qui était très attendu évidemment, et qui est très orienté sur le social, donc la santé et l'éducation qui bénéficient d'une hausse substantielle du budget. Je crois que c'est 14 milliards supplémentaires, donc c'est une mobilisation de financement assez massif, une sorte de mobilisation au niveau de, enfin, une mobilisation d'urgence pour répondre à l'urgence. Il y a aussi une volonté d'accélérer les choses avec des marchés qui sont attribués directement pour éviter justement les problèmes et les dysfonctionnements des appels d'offres. Donc il y a vraiment une volonté d'aller vite et de répondre rapidement à cette urgence de la rue, mais aussi des orientations royales qui datent effectivement dernièrement de l'ouverture parlementaire, mais aussi du discours du trône fin juillet, où le roi avait parlé de ce Maroc à deux vitesses qu'il désirait justement réparer d'une certaine manière, ou raccrocher le Maroc qui est un peu en retard, notamment dans le monde rural ou dans certaines villes, avec ce Maroc qui se développe, ce Maroc émergent.
Le gouvernement marocain, hein, qui, vous le soulignez, met en avant un effort budgétaire pour 2026 de 140 milliards de dirhams. Cela représente 12,9 milliards d'euros. Une somme consacrée à la santé et à l'éducation, avec la création de plusieurs milliers de postes dans ces deux secteurs, 27 000 selon le gouvernement. Et il y a un autre élément important, c'est le fait d'encourager les plus jeunes à s'engager en politique, notamment les jeunes de moins de 35 ans. Comment cela va se traduire? Qu'est-ce qui va être mis en place pour cela?
Alors effectivement, ça aussi, c'est un des points de réforme du code électoral qui pourrait répondre à une mobilisation, à une implication des jeunes dans la politique, et bon, pas que les jeunes, mais l'idée c'est de débloquer un verrou pour que les jeunes puissent se présenter aux élections sans pour autant avoir un mandat électoral d'un parti politique. Donc les jeunes de moins de 35 ans pourront se présenter aux élections sans avoir un mandat donc d'un parti politique, en s'impliquant en politique et représenter justement peut-être cette jeunesse qui, rappelons-le, participe très peu aux élections.
Mohamed Ezouak, journaliste fondateur de Yabiladi, au micro de François-Xavier de Calonne. C'était le dossier du jour. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur Radio Orient.